Carotte.
Chapitre 2.
Bonjour et bienvenue sur Chapitre 2. Je suis Alice.
Et je suis Cécile.
Aujourd'hui, nous accueillons Julie Desbes. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors, à Chapitre 2, nous aimons bien que les invités se présentent comme ils le souhaitent. Donc Julie, je te laisse te présenter comme tu le veux.
Alors, bonjour, je m'appelle Julie Desbes, je suis autrice, écrivaine de deux romans pour l'instant, donc le premier Racine d'Elle qui va sortir en poche très bientôt, et le deuxième La Maison Bleue qui est sorti en octobre. Voilà, j'ai un rapport particulier et assez profond avec l'écriture. Pour moi, c'est presque un besoin, en tout cas c'est vraiment une source de joie puissante et j'aime aussi particulièrement la nature. Donc quand j'écris dans la nature, c'est le summum du bonheur pour moi. Voilà.
D'accord. Ah oh, mais oui, t'as toujours la nature qui est très présente dans tes livres, c'est ça, hein?
Ah oui. Racine d'Elle, d'ailleurs, la première couverture, c'était un arbre dessiné par une illustratrice, tout ça, sur lequel on a passé des heures. Donc oui, moi, j'ai vraiment ce lien aux végétaux, à la nature, à la source de vie. C'est très, très important aussi dans la pulsion de l'écriture, en fait.
D'accord. OK. Alors, pour connaître nos invités, nous avons un petit jeu qui s'appelle le tac au tac. Alors, en principe, c'est je te donne deux propositions et tu réponds le plus vite possible celle qui te vient. En fait, c'est à réfléchir. Le but, c'est ça, réfléchir. C'est d'y aller spontanément. Okay. Peut-être qu'il y a des réponses qui vont t'étonner toi-même. Je sais pas. Des fois, ça arrive. On dit des choses.
D'accord.
Et puis, en fait, voilà. Alors,
c'est parti.
Ouais, OK, oui. Super. Thé ou café?
Thé. Mais en fait, aucun des deux. Aucun des deux, en vrai.
Tu as rien du tout?
En fait, non, la théine, je supporte pas trop. Et le café, j'en bois qu'un le matin, vraiment un petit, mais c'est tout. Sinon, un peu aucun des deux. Boisson chaude, c'est plutôt infusion. Par exemple, là, ouais. Je bois une infusion.
Ouais, infusion. OK, d'accord. Sucré ou salé?
Ah, salé.
Ah oui. Ah, salé. OK.
Ah oui, salé. Ah, j'adore. Ah oui.
Bon, la prochaine, je crois qu'elle est facile. Ville ou campagne?
À campagne, forcément.
Ah, voilà. Parce que tu nous as dit tout à l'heure, c'était obligé, là, que c'était plus la nature,
ouais.
Loin des villes, de la
l'horizon, voilà, ouais.
Alors, voyons si cette boisson est plus simple. Vin rouge ou champagne?
À champagne, oulala.
Ah.
les bulles, les filles, les bulles. Ça, c'est mon, j'adore.
OK. Film ou série?
Alors, ça, c'est difficile. Avant, j'aurais dit film sans problème. J'étais au cinéma tout le temps. Enfin, voilà. Mais depuis qu'on a beaucoup de séries de qualité, j'avoue que je suis très, très série parce que l'attachement est plus long, donc ça devient un compagnon, un peu comme les livres d'ailleurs, je trouve. On peut suivre des personnages sur le long terme et ça, j'adore. Donc, je dirais série aujourd'hui.
Série, d'accord. Bon, je te pose la question, mais je pense que la réponse est déjà dans la question. Tu préfères un film ou un livre?
Bah, un livre.
Ok, on est d'accord.
Oui, forcément, le livre est pour moi la base aussi de souvent quand même de la création en fait. Hein, même après, il y a des films qui ne sont pas forcément adaptés, mais oui, le livre c'est tellement intime, c'est un compagnon comme je viens de le dire, c'est vraiment un compagnon pour moi.
Est-ce que t'as quand tu finis ta série ou ton livre ce petit sentiment de comme une rupture amoureuse, tu sais que c'est la fin?
Oui, non, mais.
Toi aussi, tu l'as.
mais moi, pour les séries, le plus, enfin, parce que je regarde en plus souvent des séries très affectives, humaines, tout ça.
Ouais.
Et donc, à la fin, c'est un deuil, quoi. Non, mais.
Ah,
moi, c'est vraiment. Oui, non, mais.
C'est pareil.
Mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, c'est un attachement parallèle. Ça nourrit au niveau des émotions. Ça nous fait vivre et vibrer, quoi. Donc, c'est. Ouais.
Ça me fait ça pour les livres aussi, moi, perso. Hein.
Ah oui, pareil.
Il y a des livres, t'as du mal à les quitter. Tu te laisses les dernières pages, tu dis non, mais je vais pas le finir aujourd'hui, je veux pas.
Oui, et puis même parfois après, t'as du mal à en lire un autre,
oui.
Tellement t'es encore imbibé par les personnages. Et ouais, tout à fait.
Ah oui, complètement.
C'est puissant, ouais.
Bon, allez, la dernière. Corner les pages ou marque-page?
Marque-page. Alors, je corne jamais les pages. Par contre, j'écris dans mes livres. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça. J'écris, je stabilote les citations que j'aime.
Ah ouais, moi,
j'ai... Ah ouais, là, moi, j'adore parce que je garde du coup tous mes livres avec le, et après, quand je les feuillette, je retrouve tout de suite les citations qui m'ont, que j'ai adoré, tout ça, et je mets des petits marque-pages aussi de couleurs.
Ah oui, post-it sur le côté, ouais.
Ouais, oui. Voilà, c'est ça. Avec le stabilo sur vraiment les phrases marquantes, quoi. Donc, je peux pas les prêter, du coup.
Ah ben oui. Ou alors tu les prêtes, mais il faut pas qu'ils touchent les marque-pages et les citations,
oui,
c'est ça. Et tout
oui,
ça.
Oui, mais disons que les citations qui me parlent ne parleront pas forcément aux autres. Je pense qu'on a, voilà, on trouve chacune un écho particulier dans chaque livre, en fait.
Donc, en fait, c'est vraiment l'objet livre qui te plaît aussi, le format, enfin tout, quoi.
Ah oui, le papier, l'objet. Ah, moi, je suis amoureuse de l'objet livre. C'est une passion. C'est vraiment voilà. C'est l'objet. Je lis jamais d'ailleurs sur d'e-pub, d'e-book, tout ça. J'en ai jamais lu pour l'instant.
D'accord. Okay. Ah oui, c'est vraiment papier.
Ah oui, papier, parce que je le vois comme un compagnon physique. C'est
d'accord.
Sur ma table de nuit, j'ai 15 livres. Tous en pile, avec des j'en lis plusieurs en même temps, et voilà, c'est vraiment, ouais, c'est des compagnons.
Attends, je reviens, tu en lis plusieurs en même temps?
Plusieurs, ah oui, oui, oui.
Deux ou plus?
Ah non, là, j'en ai 7-8 en cours.
Ah oui.
Et selon l'envie et l'humeur, je prends l'un ou l'autre.
Mais tu te perds pas, du coup, dans les histoires?
Ben non, je crois que j'ai l'habitude maintenant avec toutes les lectures que je fais, voilà. Mais non, je me perds pas. Après, parfois, il y en a que je lis en one shot. Hein. J'en lis un seul. Ça m'est arrivé dernièrement avec Les Dragons, que j'ai adoré, mon coup de cœur. Vraiment, là, je l'ai pas lâché. Et dans ces cas-là, je le lis en 2-3 jours, voilà.
Ouais.
Mais sinon, je lis dans la durée, voilà.
D'accord. Ah oui, mais quand même, 7 livres. Ah, moi, je trouve que déjà 2, c'est beaucoup.
Oui. Moi, je peux pas.
moi, je peux arriver à 3, mais avec des formats différents et du style différent. Mais là, j'imagine que toi, c'est le même style, plus ou moins.
Ah, pas, ouais, enfin, oui, non, j'allais dire pas forcément, mais en même temps, si je lis pas de policiers, je lis pas thriller, je lis pas. Oui. En effet, oui, c'est plus ou moins quand même le même style. Oui, oui, on peut dire ça. En tout cas, littérature blanche.
Plutôt littérature blanche ou développement personnel? Non, développement, non.
Ah non, j'en ai lu beaucoup à une époque, avant d'écrire Racine d'Elle d'ailleurs. J'en lis plus beaucoup, développement personnel. Plus beaucoup. Je m'approche plutôt de thèmes, de livres assez féministes, assez engagés. Oui. Je lis plus ce style de livre maintenant.
D'accord. Ok. Bon. C'est le moment de la rubrique tant attendue, la Madeleine de Proust. Moi, je l'attends. Donc, je sais que nos auditeurs l'attendent aussi, de Cécile. Je te laisse profiter de la petite séance de psy gratuite.
Ok.
Tu me fais rire à chaque fois que tu dis ça, Alice. Alors, la Madeleine de Proust, donc, je vais te poser des petites questions. S'adresse à l'enfant que tu as en toi ou que tu étais. Si une question ne te plaît pas, tu me dis on switch, il n'y a aucun souci. Et voilà.
Ok.
T'es prête?
D'accord. Okay. Je suis prête.
Alors, quel livre a marqué ton enfance?
Oh, alors ça, c'est difficile. Alors là, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas un livre. L'enfance, un livre. Je lisais beaucoup de BD. Astérix, Obélix, etc. Mais un livre, j'ai en fait la lecture vraiment de fiction pour moi a démarré assez tard. Donc, je le situe pas forcément dans l'enfance. Dans l'enfance, c'était plutôt, oui, les BD. Je dirais plutôt des BD, ouais.
Et si tu avais un livre, par exemple, là, tu as un jeune de 10 ans ou une jeune de 10 ans qui te dit, voilà, je n'aime pas lire. Je suis pas attirée par l'objet livre.
Mm-hmm.
Tu te challenges pour lui faire aimer la lecture. Tu vises quoi?
Bah, je dirais l'un des derniers de Baptiste Beaulieu qui aborde notamment la thématique du harcèlement scolaire. Enfin, il y a un très beau livre pour les enfants. Je ne sais plus exactement le titre, mais notamment, enfin voilà, il y a des enfants qui le lisent autour de moi. Et voilà, j'orienterai vers forcément des lectures assez engagées aussi sur des thématiques vraiment de protection aussi pour les enfants. Je trouve que c'est important de leur donner des clés par rapport à la lecture sur aussi le fait qu'ils ont le droit de dire non à certaines choses, etc. Donc, j'orienterai vers des lectures comme ça.
Ok, ça marche. Tu as donc 10 ans, de nouveau, et en un claquement de doigts, tu peux devenir qui tu veux. Donc, la toi de 10 ans, elle devient qui?
une super héroïne. Ça, c'est... Mais alors laquelle je sais pas, parce qu'à 10 ans, j'étais quand même très fleur bleue, un peu naïve, enfin très naïve même. J'étais très dans mon petit monde comme ça, imaginaire. Je sais pas si c'était à cet âge-là, mais genre j'écoutais Rock Voisine, voilà, des trucs comme ça, quoi. J'étais, je me souviens de longs trajets en voiture où j'avais les écouteurs, c'était le début des baladeurs, la cassette, et je retournais ces cassettes toujours face A, face B avec toutes les chansons. J'apprenais les paroles par cœur, et donc j'étais vraiment un peu dans mon monde. Donc oui, alors je dirais une super héroïne, mais je ne sais pas te dire laquelle, oui. Mais voilà, un peu dans quel état d'esprit j'étais, en tout cas, à l'époque.
Ça marche.
Mais c'est dur de retourner à l'enfant quand on était, hein. En plus, 10 ans, c'est, voilà, faut se situer, mais.
Je t'ai dit, séance de psy, là.
Non, mais sans les filtres de l'adulte qu'on est, c'est vrai que c'est pas forcément évident, en plus.
Mais voilà, parce que j'avais envie de te répondre plutôt à travers l'adulte, mais j'ai essayé de répondre à travers l'enfant, mais c'est vrai que c'est pas évident.
Ouais. Dernière petite question. Le plat réconfort que tu te fais encore, et moi par exemple, tu vois, c'est le vermicelle le dimanche soir. Ça va être le plat un peu doudou de quand j'étais petite. Est-ce que tu as un plat comme ça?
Ah, le plat doudou de quand j'étais petite, je dirais, c'est bêtement purée saucisse.
Ouais, mais ouais, ça marche.
Mais, mais vraiment, ça marche avec le petit trou au milieu de la purée pour mettre la sauce.
Ah, ouais,
c'est le volcan.
Non, mais ouais. ça c'est clairement le plat doudou de l'enfance. Et j'ai aussi la salade avec une vinaigrette à l'échalote. Ça, c'est très d'ailleurs, j'ai le saladier vraiment de ma grand-mère chez moi. C'est le seul objet que j'ai voulu récupérer parce que voilà, ça me rappelle beaucoup les souvenirs d'enfance. Donc moi, je dirais ça. Purée, saucisse, volcan de sauce et salade échalote.
Impeccable. On a un plat. Un entrée, plat, presque dessert.
Voilà.
Est-ce que du coup, tu le refais, ce plat? À tes enfants, peut-être?
Oui. Oui, en plus, c'est assez rapide à faire. Et au niveau cuisine, je suis plutôt adepte de la rapidité. Donc, c'est rare que je prenne vraiment le temps, 2 heures pour cuisiner, tout ça. Donc, c'est un plat que je fais et du coup, que je mange parfois et qui rappelle tous ces souvenirs, bien sûr.
Super. On a des petites questions pour parler de toi, de ton écriture, de comment tu fonctionnes, tout ça. Moi, je voulais savoir, depuis quand tu écris?
Alors, j'écris depuis toute petite, mais j'ai écrit des choses différentes. Donc, j'ai, par exemple, à 10 ans, 10, 11 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes. Je me souviens que la première chose vraiment que j'ai écrite sur un petit bout de papier, la machine à écrire qui était travail de mes parents, c'est un poème bracelet que j'ai donné à ma mère quand même, qui faisait tout le tour du poignet, quoi, avec un poème pour ma maman, quoi. Donc là, c'était quand je dis que j'étais un peu fleur bleue, c'est
trop mignon.
oui, non, mais vraiment, c'était, puis voilà, je lui ai demandé de le porter d'ailleurs un petit peu, mais voilà, c'est ça. Maintenant que je suis maman, bon, voilà. Et après, j'ai écrit plutôt vers ma vingtaine, tout ça, j'ai écrit des chansons. J'étais beaucoup dans la musique. Donc, j'ai écrit, au niveau de la musique, j'ai composé, mais j'ai écrit beaucoup de textes. J'ai un classeur énorme de textes, de chansons. Ça a été vraiment, pendant une dizaine d'années, j'étais là-dedans. Et en fait, après, progressivement, je me suis dirigée vers l'écriture de romans. Et donc après, c'est là que Racine d'Aile est née. Donc, en fait, j'écris vraiment des romans. En tout cas, j'ai commencé, l'impulsion a commencé, je dirais, il y a une dizaine d'années, quoi. Mais ça a été le cheminement. En fait, les mots ont, par contre, toujours été là depuis que j'ai appris à lire et à écrire. Ça m'habite depuis toujours.
Je voudrais revenir sur ce que tu as dit, parce que je trouve ça hyper intéressant. Tu écrivais des chansons. Tes chansons, elles sont restées, entre guillemets, lettres mortes, ou t'en as fait quelque chose?
Alors, j'ai fait un peu de scène à un moment, mais pas sur mes chansons, mais au niveau du chant, de la musique, etc. Et j'ai fait une espèce d'album, de petit album CD que j'ai pas produit nulle part, tout ça, mais j'avais, plein du matériel pour composer, pour tout monter. Mais ça a été toute une partie de ma vie, très axée sur la musique, et j'étais en même temps dans la danse, j'ai fait la chorégraphie, j'étais très, très, en fait, mon expression artistique, elle était dans la musique, dans l'aspect scénique et vivant. On dit, c'est le spectacle vivant.
Vivant, ouais.
Et progressivement, je suis passée un peu derrière avec les livres et avec surtout l'enjeu. En fait, j'ai toujours cherché la liberté, je pense, dans l'écriture. Et je me suis rendu compte à un moment donné que la liberté, elle était à son maximum. D'ailleurs, j'en parle un peu dans Racine d'elle à la fin, à travers le personnage de Rose. Elle était à son maximum dans l'écriture d'un roman, dans une fiction, en fait. On pouvait aller n'importe où, avec n'importe qui. Il y avait énormément de pages, donc on pouvait faire tout ce qu'on voulait, quoi.
C'est cool. Et tu voudrais pas les faire produire, tes chansons, ou les faire chanter par quelqu'un, je
sais pas. Oh là là, non, maintenant, c'est vraiment derrière moi. C'était une période de ma vie, jeune adulte, quand je travaillais dans un autre milieu, etc. Et du coup, je passais, en fait, aussi pendant toutes mes études, hein, je passais énormément de temps, en fait, à faire de la musique, finalement. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, oui, non, c'est plutôt derrière.
OK. Moi, j'ai une petite question pour rebondir à ce que tu disais au tout début, que tu es très connectée à la nature et que ça t'inspire énormément. Est-ce que, justement, tu as des rituels d'écriture particuliers ou des petites choses qui te sont nécessaires, en fait, pour écrire ?
Alors, je dirais que, pour moi, il y a plusieurs phases dans l'écriture. Il y a notamment la phase d'inspiration, où là, on n'écrit pas, mais dans l'être, dans le corps, dans le psychisme, on est en train de créer. Et c'est dans ces moments-là que je suis très au contact de la nature. Je peux être sous un arbre pendant une heure et juste attendre. Et voilà, il y a rien de concret, mais je suis en train déjà de créer finalement. Donc il y a déjà ce rapport à la nature dans l'écriture comme ça. Et après, quand j'écris vraiment, moi j'ai besoin du silence. Parfois j'écris avec de la musique, mais c'est quasiment toujours Ludovico Einaudi, donc du piano que j'écoute. Et Ludovico Einaudi, je suis fan. Je l'ai vu en concert, j'adore, vraiment. C'est une musique très très spirituelle, très très inspirante. Donc ça colle vraiment avec l'énergie que j'ai dans l'écriture. Mais sinon je suis vraiment vraiment dans un espace, j'ai besoin de silence, mais un silence qui n'en est pas un finalement. C'est ça que j'aime dans l'écriture, c'est que on est dans un silence, mais finalement on est dans un, il y a une musique intérieure. Moi, je perçois du coup l'écriture comme de la musique, et c'est sûrement dû à mon parcours, à ma sensibilité, et les romans comme une partition, les personnages comme des notes. Donc pour moi c'est un concert, en fait, dans ma tête. Donc, voilà.
C'est génial. Ah, c'est super de comparer, effectivement, l'écriture à une, ouais, un concert, quoi. C'est super. Et t'as le rythme, de toute façon, dans l'écriture aussi, qui fait que on s'accroche à un roman ou pas.
Oui, d'ailleurs, il y a une autre phase, la dernière phase pour moi de l'écriture, avant qu'on dise, OK, c'est la version finale du roman, il part en relecture orthographique, etc. Il y a ce moment où je retravaille une dernière fois le roman, le texte, chaque phrase, avec cette notion de rythme et de croche, demi-croche, de partition. Et si je sens qu'il y a une phrase après une autre qui fait pas le bon rythme, eh ben j'enlève un mot. Et donc j'ai vraiment cette façon-là d'écrire. C'est génial parce que c'est hors champ intellectuel. C'est ça que j'aime dans l'écriture, c'est qu'on est on est vraiment dans la création pure. On est dans quelque chose qui peut pas être cadré, qui peut pas être limité. C'est ça qui me parle beaucoup.
D'accord. C'est hyper intéressant de voir ça, ouais, comme ça, effectivement. Ouais. Alors, tu as un roman qui est sorti le 5 octobre, La Maison Bleue, qui cartonne.
Oui.
ah oui. Et je sais que tu as une nouveauté toute fraîche qui arrive le 21 mars, si je ne m'abuse, au niveau de la date.
Oui, c'est ça, moment du printemps.
Ouais, pour le printemps, parfait. Donc, c'est la sortie poche de Racine d'elle, c'est ton premier roman. Qui a quel âge, celui-là ? Il est de quel âge ?
Alors, Racine d'elle, c'est une longue histoire. Déjà, je tiens à dire que le poche, c'est une version inédite. Donc, c'est pas le...
Ah, ok, d'accord.
C'est important. J'ai tout le mois de janvier, j'ai travaillé corps et âme dessus. Donc, voilà, c'est vraiment une version inédite. Mais alors, Racine d'elle, il est en fait assez ancien et il a eu plusieurs étapes parce que j'ai commencé dans l'auto-édition avec Racine d'elle. Et donc, ça, c'était en fin 2019. Oui. Et c'est par en fait tout ce cheminement dans l'auto-édition et le fait d'avoir eu des retours de lecteurs, etc., qui a fait qu'après le livre a été publié au niveau national en 2021. Et donc là, c'est une version inédite en 2024. Donc c'est un roman qui a évolué en fait, parce que je pense que de toute façon un premier roman il est perfectible. Et voilà, je voulais lui donner là dans la version poche vraiment une dimension plus romanesque. Et puis bon, après, je pense qu'en tant qu'auteur, on voit tous les défauts d'un premier roman, donc je voulais un peu lui offrir une nouvelle vie plus romancée, voilà, axée sur le côté fiction vraiment.
D'accord. Donc l'histoire est plus ou moins la même, sauf que tu l'as retravaillée différemment pour mettre
Racine d'Aile, à la base, à la toute base, quand j'ai commencé à écrire, je voulais écrire un essai sociologique. Donc c'était pas du tout un roman à la base, voilà. Et sauf que j'ai évolué dans ma façon de créer, etc. Et donc Racine d'Aile est un roman, mais qui avait aussi cette dimension un peu sociologique que j'avais à l'époque en fait quand je l'ai écrit. Donc hélas, dans la version poche, j'ai voulu vraiment pas gommer cet aspect sociologique, mais vraiment que ce soit un roman poussé sur l'accès romance, quoi. Enfin roman.
D'accord.
Si je suis claire.
Oui. Mais de toute façon, tu vas nous le pitcher juste après. Mais tout d'abord, tu nous as donné le privilège d'avoir un extrait en avant-première de ton roman. Donc, et c'est Cécile qui va se coller pour lire cet extrait.
Avec sa douce voix.
Voilà, avec sa voix qui s'y prête parfaitement. Et comme ça, ça permettra après qu'on parle un petit peu de ce roman, que tu nous le pitches, nous expliques un petit peu tout ça.
Ok.
Quel est le but de notre existence? À quoi devons-nous consacrer notre énergie, le temps de notre passage éclair sur cette terre? Nous sommes ignorants et le savons bien. Nous avons peur de mourir, mais nous mourrons tous. Nous sommes rationnels et le prenons haut et fort. Bien que nous ayons l'impression que cette rationalité nous protège, elle nous empêche aussi de voir. Moi, elle m'a empêché de voir. Le temps de quelques lignes, j'aimerais que vous laissiez aller votre cerveau à ses énergies les plus profondes, celles que vous ne maîtrisez pas. Rose.
C'est cool. C'est quoi ça?
C'est super intriguant.
Oui.
Ouais, je suis tellement contente que vous ayez choisi ce passage-là, parce que du coup, je vous avais envoyé plusieurs extraits. Oui. Je me demandais lequel vous alliez choisir. Et ça, c'est le prologue. En fait, c'est la lettre prologue, la lettre qui se situe vraiment au tout début, à l'ouverture du roman. Et donc, c'est Rose, le personnage principal du livre, qui s'adresse au lecteur, parce que Rose, c'est une éditorialiste trentenaire parisienne qui est suivie par une communauté de lecteurs depuis une dizaine d'années, en gros, et voilà, qui publie des billets sur son blog, etc. Et donc, à un moment donné, Rose, elle rencontre plusieurs obstacles dans sa vie, ce qui fait qu'elle va quitter son job et qu'elle va partir en Asie du Sud-Est à Bagan pour des raisons assez qui sont décrites dans le début du livre. Et vraiment, en gros, au début du coup du roman, elle adresse cette lettre au lecteur pour dire moi, je me serais jamais posé cette question. Finalement, quel sens a notre existence? Qu'est-ce qu'on est censé faire pendant cette courte vie? Et elle était très encadrée par des schémas rationnels, etc. Et son voyage en Asie et les rencontres qu'elle va y faire, ainsi que aussi sa meilleure amie Félicie qui est à Bruxelles et qui travaille avec une intelligence artificielle, etc., ça va ouvrir son champ de conscience, ça va lui apporter une toute nouvelle vision, et c'est ce qu'elle va essayer de transmettre au lecteur. Donc il y a une lettre de départ, celle que vous venez de lire, et il y a une lettre de fin à la fin du roman où en gros elle fait un petit peu sa conclusion au lecteur. Voilà.
C'est quelque chose de très initiatique du coup.
Voilà ce que j'allais dire, oui.
Alors, il y a beaucoup de lecteurs qui ont pu dire que Racine d'Aile était une forme de conte initiatique, de roman initiatique, un roman un peu magique qui arrive souvent au bon moment dans la vie du lecteur. Il y a quelque chose, d'ailleurs, c'est un livre qui, moi, m'a guidée moi-même. C'est quelque chose que j'ai beaucoup dit quand le roman est sorti. Et c'est vrai, il y a vraiment une dimension, c'est tout un cheminement, c'est une quête de soi qui est en fait une quête de joie et une ouverture des des champs de conscience, une autre façon de voir les choses à travers des rencontres. Rose, elle va rencontrer Maria, qui est une femme de 50 ans et qui vit à Bagan, qui n'a pas toujours vécu là-bas, qui était une grande danseuse d'ailleurs à Londres, etc. Et qui va faire une chute, qui va avoir un terrible accident 30 ans plus tôt, du coup. Et cette femme a un secret et un don. Et donc Rose, la rencontre de Rose et Maria va en fait créer l'esprit du roman avec cette femme de 50 ans qui représente un peu la sagesse féminine, l'expérience, la maturité, et Rose qui est encore un petit peu idéaliste et qui écrit pour sa génération, celle qui se sauve des entreprises, qui se sauve d'un monde qui l'étouffe. Ça parle beaucoup aujourd'hui. Et en fait, Rose, elle cherche un autre souffle, mais aussi dans le sens qu'elle veut donner à sa vie professionnelle, à sa vie personnelle. Et avec Maria, il y a quelque chose qui va comme... Il va y avoir une rencontre entre deux femmes, et il y a aussi une troisième femme, Félicie, qui joue aussi un rôle là-dedans, qui est elle à Bruxelles. Et voilà, c'est ce trio un peu qui va créer tout l'esprit du roman, et c'est un véritable voyage intérieur et extérieur à travers aussi la culture orientale qui, moi, m'a beaucoup inspirée dans mon cheminement. Donc, je voulais donner ce point de vue en tant qu'occidentale, parfois, eh bien, il y a d'autres cultures à aller voir et pour nous ouvrir les yeux, quoi. Et d'ailleurs, il y a souvent cette référence aux yeux. Ouvrir les yeux, Rose, elle ouvre les yeux, elle ferme les yeux, elle s'endort, elle rouvre les yeux. Il y a vraiment cette notion de ce qu'on ne voit pas et ce qu'on voit dans ce roman. Voilà.
J'ai l'impression que c'est un roman hyper actuel, puisque même si tu l'as écrit en 2019, mais en fait, c'est aujourd'hui qui fait énormément écho, parce qu'il y a énormément de conversions professionnelles, énormément de personnes qui se posent la question de leur utilité sur... Oui. Tu vois, il y a une prise de conscience, je trouve.
Ouais. Mais exactement, exactement. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire une nouvelle version inédite pour lui donner, parce que je pense qu'il y a une vraie résonance aujourd'hui. Et je voulais vraiment appuyer sur cette résonance, sur le fait que il y a beaucoup de lecteurs et lectrices qui peuvent s'identifier au cheminement de Rose. Et après, peu importe ce qu'on va chercher dans un autre job, dans un autre pays, dans une autre, même parfois vie de famille, peu importe les changements qu'on fait dans notre vie, mais il y a un moment souvent dans la vie où on se rend compte, enfin ça peut arriver, on se rend compte qu'en fait on n'est plus forcément à notre place et qu'il nous manque quelque chose. Et souvent, on va chercher cette pulsion-là, on va la chercher à l'extérieur. Et c'est souvent par la rencontre et par l'humain. D'ailleurs, il y a une citation que l'intelligence artificielle qui s'appelle Ima dans le roman, qui est un peu la meilleure amie de Félicie. Bref, elle dit « Les humains sont attirés par ceux, C-E-U-X, dont ils peuvent apprendre. » Et c'est vrai, on est attirés, parfois on s'en rend pas compte, on dit le hasard, mais peu importe comment on l'appelle, mais on rencontre des gens qui vont ouvrir une nouvelle porte. Et voilà, c'est ce que Rose va vivre à travers Maria et à travers d'autres personnages aussi masculins. Il n'y a pas que des femmes, loin de là. Et voilà, c'est comment les rencontres peuvent changer notre vie, et sans en dire plus. Mais en effet, ouais, ça résonne beaucoup, parce que je crois qu'il y a quelques années, quand je l'ai écrit au début, il y avait le début de la reconversion, mais c'était très développement personnel, tout ça. Ça commençait, quoi. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus ancré. Les gens le font beaucoup plus spontanément. Enfin, il y a C'est le plus commun, je crois.
J'ai l'impression que tu vas être la future mode en quoi. Je te le souhaite, en tout cas.
Oui, parce que, disons, elle vend beaucoup de livres, mode en quoi.
Et puis, il y a toujours cette notion de cheminement dans ces livres pour oui, ouvrir les yeux, en fait, changer son état tel qu'on est, enfin, tu vois, essayer d'aller plus loin.
C'est vrai, tout à fait. Et elle utilise aussi d'ailleurs beaucoup le lien à la nature, et ouais en tout cas dans Kilomètre Zéro que j'avais commencé à lire, en effet, et qui a eu d'ailleurs le plus de succès, je pense, hein.
Oui, c'est celui qui a le plus vendu
de cette autrice, ouais. Et dans Racine d'elle, il y a aussi beaucoup les lecteurs ont aussi beaucoup apprécié dans le grand format les descriptions de la nature. Et enfin, vraiment, il y a des moments de description avec Bagan et ses pagodes à perte de vue.
Ah ouais.
Ces moments où le personnage, en fait, devient qui il est. Mais c'est subtil, c'est comme dans la vie. Il y a des moments comme ça où on devient qui on est vraiment à l'intérieur, mais on s'en rend pas compte. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'actes. Et souvent, la nature donne cet espace, en fait, propice au devenir. Et c'est ce que j'ai voulu beaucoup aussi expliqué dans Racine d'Elle, et d'ailleurs à la fin Rose, enfin je peux peut-être pas le dire, oui, mais il y a toujours la nature, voilà.
Spoiler pas la fin.
J'avoue.
Non, mais en tout cas tu vas nous faire voyager, donc voyager, oui, dans un autre pays, si j'ai bien compris, oui, et aussi voyager entre guillemets autour de nous, parce que la nature il y en a partout, on n'a pas besoin d'aller en Asie pour la remarquer, pour voir comment elle est belle.
Oui, tout à fait. Alors, il y a en fait, le roman, il se passe à la fois à Bagan, mais aussi à Bruxelles, un peu à Paris au départ. Et en fait, les lieux Bagan, c'est surtout utilisé pour ces pagodes à perte de vue, et donc l'espace que ça offre pour que Rose puisse devenir elle-même et se trouver. Mais en effet, cette nature, où l'arbre est très présent dans Racine d'Elle, Rose a beaucoup de moments près d'un arbre, ou voilà. Et c'est ça, on peut le trouver n'importe où. En fait, c'est un livre qui ouvre en effet sur l'extérieur, et après, mais aussi sur l'intérieur. Hein, c'est vraiment un voyage intérieur et extérieur. C'est un équilibre, je pense, vraiment entre les deux.
Est-ce que tu as visité cet endroit que tu décris, du coup?
Ah bah. Eh bien, alors en vrai, j'ai l'impression d'y être allée, mais j'ai vu tellement de documentaires, j'ai regardé tellement de choses au sujet de Bagan, j'ai lu tellement de choses au sujet du Myanmar, de ce pays qui est d'ailleurs dans une situation au niveau politique. D'ailleurs, je finis là-dessus, enfin, Rose finit là-dessus d'une façon, voilà, pour quand même ancrer dans le réel. Mais j'ai une amie qui était pendant l'écriture, c'est d'ailleurs l'amie qui a pris en photo, c'est la photo de couverture du poche. Oui. Elle a pris en photo un endroit pendant son voyage en Asie du Sud-Est, et donc elle était à Bagan et elle m'envoyait les couchers de soleil, levées de soleil, quand j'écrivais sur les couchers de soleil, levées de soleil. Donc c'était génial en fait, parce que j'ai eu l'impression d'y être, et donc c'est aussi pour ça que la couverture, c'est cette photo voilà, qui avec un pont qui arrive dans la forêt, ouais, voilà.
Ah ouais, oui, bien. Elle est trop belle, moi je l'ai vue, la cour, elle est magnifique. Justement, je voulais te demander où c'était, ouais, voilà, mais du coup tu nous as dit, c'est vraiment une vraie photo de cet endroit.
Oui, c'est une vraie photo d'une de mes plus proches amies, qui sans doute écoutera ce podcast, donc je la remercie. Et voilà, qui a été prise en Asie du Sud-Est au moment où je l'écrivais, donc ça ne pouvait être, le jour où elle m'a envoyé cette photo, je lui ai dit, je me souviens, j'étais dans l'écriture au début, hein, je lui ai dit, un jour ça sera la couverture de mon livre, tu verras, un jour. Et voilà, et c'est super chouette, il y a un sens, moi j'accorde beaucoup de place à l'amitié, d'ailleurs dans mes deux romans l'amitié a une, ouais, place très très importante. Et voilà, donc ça, c'est aussi une forme de, pas d'hommage, de, en tout cas, de petit clin d'œil à l'amitié.
Et justement, est-ce que tu peux nous parler donc de La Maison Bleue qui est sortie le 5 octobre ?
Oui, alors La Maison Bleue, en effet, donc il est sorti en octobre et il est en rupture de stock depuis mi-janvier. Donc, ah ouais, il va être réimprimé et remis en vente dans toutes les librairies au mois de mai. Il fait partie de la sélection été du diffuseur national, donc... Je suis très très contente. Ouais ouais, vraiment. Il a démarré très vite et les lecteurs se sont appropriés le roman. Je pense qu'il y a eu pas mal de bouche à oreille et vraiment. Ouais, c'était assez chouette de vivre une sortie de roman comme ça. Donc la couverture, tout a bien plu. Donc très très contente. Et La Maison Bleue. Alors oui.
Excuse-moi, juste. Il est en rupture. Ça veut dire que tu avais déjà un premier stock qui a été imprimé et vendu.
Oui. Oui, oui, tout ce qui a été imprimé a été vendu, et donc là, pour un salon notamment, j'ai dû récupérer des exemplaires partis par là aux libraires locaux pour pouvoir aller au salon. Sinon, je devais annuler parce que j'avais plus de stock. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. C'est assez sympa.
C'est génial.
Ah ouais. Ouais, ouais. C'est très chouette. Donc en effet, lui, il ressort en fait. Finalement, il y aura une espèce de deuxième sortie en mai. Et comme c'est un roman qui colle à la fois, enfin qui peut à la fois résonner en hiver et en été, en fait,
ouais,
il est
c'est parfait.
Voilà, c'est parfait. Donc et La Maison Bleue. Alors ce que je veux dire quand même, c'est très important pour les gens qui nous écoutent, c'est que ce n'est pas le même style que Racine d'Elle. Ce sont des romans vraiment différents. Parce que je pense qu'on peut aimer Racine d'Elle et pas forcément La Maison Bleue et vice versa. Parce que parfois on s'attend à ce qu'un auteur écrive un peu la même chose ou dans le même domaine. Et moi, j'ai vraiment voulu, enfin en tout cas, c'était en moi ce deuxième roman. Il est sorti, c'est imposé à moi comme Racine d'Elle d'ailleurs. Donc c'est pas quelque chose que je choisis, les thématiques, tout ça, ça vient à moi. Et donc, on est beaucoup plus sur un roman avec du suspense psychologique, avec l'histoire de trois personnages, Léo, Emma et Justine, qui ont vécu un drame dans leur enfance, leur adolescence, et qui sont aux quatre coins du monde à l'âge adulte, à la quarantaine, et qui vont se retrouver sur les lieux de leur adolescence en Bretagne pendant quelques jours. Et donc, voilà, la question va être, est-ce qu'ils vont affronter ce qui les a séparés, comment Donc, on est beaucoup, j'ai voulu créer, vraiment écrire un livre où à chaque chapitre, le lecteur se dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe après ?» de vouloir tourner les pages avec une espèce de narrateur omniscient qui, voilà, bon, j'en dirai pas plus. C'est un livre dont il est très difficile de parler parce qu'il faut vraiment le lire pour enfin, on peut vite le spoiler si on en parle trop. Donc, voilà. En tout cas, il est vraiment différent de Racine d'aile. Et voilà ce que je peux en dire.
Moi je l'ai lu. Alors je vais pas le spoiler non plus, mais je voudrais juste dire que effectivement, on a l'impression de lire une histoire d'amitié, et c'est une histoire d'amitié bien sûr, mais en fait c'est beaucoup plus, et ça va au-delà de ce qu'on peut penser de la couve, du résumé. Il est bouleversant. Il nous touche tous, et c'est parce que ça touche l'enfant qui est à nous, comme ouais. comme la rubrique de Cécile.
exactement.
Oui, je trouve que c'est il est très touchant, mais on s'attend pas à ce qui nous touche autant au début. Parce que effectivement, bon, il y a un sujet principal qu'on dira pas, ses amis qui se retrouvent pour cette raison, mais en fait, on se dit ça va tourner autour de ça, et en fait, pas du tout. C'est
ouais.
tu nous fais un peu. Moi, j'aime bien quand les auteurs nous baladent, tu sais.
Oui, oui.
Qui nous font croire qu'on va aller là, et en fait, pas du tout. C'est juste que du coup, tu vois pas où tu vas, et quand tu y arrives, tu fais ah ouais, et c'est dingue quand c'est les.
Exactement, mais.
Ouais.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que je crois que La Maison Bleue, il y a vraiment plusieurs lectures possibles. D'ailleurs, dans les retours, il y en a qui disent « Ah, j'ai voyagé dans les embruns de la Bretagne, c'était ouais. chouette. Ah, super histoire d'amitié, c'était chouette. » Et il y en a qui me disent « Ah ouais, c'est costaud, ah ouais. sujet quand même costaud, là, tu y allais à fond. » Mais selon les personnes, vraiment, les retours sont différents, parce que je crois vraiment que dans les romans, il y a plusieurs niveaux de lecture, oui. et après, il y a des choses qui résonnent plus ou moins selon notre histoire. Et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as dit, ça résonne avec l'enfant en nous, et je rebondis sur la question de Cécile tout à l'heure sur l'enfant de 10 ans. Mais je crois, je disais, j'aurais voulu être une héroïne, ou voilà, mais je crois que, en tout cas, pour cette petite fille de 10 ans, ce livre, c'est un peu un cadeau, et donc en effet il résonne beaucoup sur l'enfant et l'adolescent qu'on a en soi, et c'est aussi pour ça que je l'ai écrit. Donc voilà, d'ailleurs je dédie ce livre aux enfants, à tous les enfants du monde, donc c'est important, hein, et je pense que c'est bien de faire le lien là avec votre podcast sur l'enfant.
Non, mais effectivement, en fonction du curseur, hein, c'est quelqu'un qui va être plus touché par la Bretagne, enfin c'est normal, c'est
voilà, exactement.
Chacun a un curseur différent sur sa lecture, et puis le moment auquel il va lire. De toute façon, c'est ça principalement qui va toucher plus ou moins le lecteur.
Mais après, c'est vrai que oui, tout à fait. C'est vrai que après ce livre, moi, j'ai voulu l'écrire vraiment, voilà, sur plusieurs niveaux. Et il y a un niveau très profond. Normalement, à la fin, si j'ai bien fait mon job, à la fin, on se dit. Ok, ah oui, d'accord. En fait, ouais. c'est bien plus gros que ce que je pensais, et voilà. Et je suis très contente, parce qu'il y en a qui m'ont vraiment dit ça, et qui ont été émus énormément. Et c'est le plus beau cadeau, quoi. C'est ce que tu viens de dire, d'ailleurs, Alice, me touche beaucoup. Donc merci pour ce retour en live.
Oui. C'est vraiment en live. Oui, non, mais effectivement. Après, moi, j'ai pas lu aux racines d'elle, c'est une autre histoire, mais c'est toujours ton écriture, donc c'est quand même ça qu'il faut souligner. Et moi, je trouve que justement, les auteurs qui savent se renouveler, ou en tout cas écrire différentes choses, ben, en tout cas, ils doivent être encore plus lus, parce qu'en vrai, ben, ça te permet de voyager, d'avoir un univers différent chaque fois. C'est un peu toujours la même chose. À un moment donné, on se lasse. Alors que si tu changes de registre, si tu nous envoies dans des endroits qu'on n'a pas forcément douté, ben, c'est encore plus riche. La lecture.
Ouais, tout à fait. Mais alors après, moi, ça m'a posé vraiment un problème aussi avant l'écriture du deuxième. D'ailleurs, j'ai mis du temps à me dire, je vais écrire un deuxième. J'avais peur. J'étais dans un truc un peu. Je crois que le deuxième est plus dur que le premier, parce qu'on a conscience de plein de choses, quoi. Et je savais par contre que j'écrirais pas dans le même registre que Racine d'elle, parce que j'avais l'impression, en tout cas, d'avoir exploité le thème central de Racine d'elle. Pour moi, J'avais exploité à travers tous mes personnages, les intrigues. Donc, il était temps, en fait, quelque part, d'en exploiter un autre. Et mes livres, c'est comme des ponts, en fait, vers un autre domaine, un autre monde, une autre façon de penser. Et donc, voilà, mais j'avais très peur au début en me disant, ah là là, les lecteurs de Racinelle, ils vont le lire, ils vont se dire, mais c'est quoi, c'est pas du tout pareil. Mais en fait, c'est la même, comme tu le dis, c'est la même plume, c'est la même sensibilité, c'est surtout la même sensibilité. Donc, voilà, et puis après, c'est pas parce qu'on aime la Maison Bleue qu'on doit aimer, c'est comme tous les auteurs connus, etc. On n'aime pas tous les livres, c'est OK, en fait.
Oui,
donc voilà, mais je pense que dans tous les cas, enfin là, j'ai commencé le troisième roman et. Eh bien, c'est encore complètement autre chose.
J'allais te demander si t'étais sur autre chose, là. Oui.
Oui, oui. Alors, je suis au tout début, mais c'est déjà très, très clair dans ma tête. Voilà, je peux juste parler de mon personnage principal qui est Rachel, une jeune femme. Je suis un peu dans le domaine de l'influence. J'aime bien, elle est influenceuse. Enfin, elle l'a été, en tout cas. Bon, voilà. Et voilà, je traite vraiment d'autres choses. Je vais aborder notamment la thématique du couple, mais aussi de l'exposition des enfants aux réseaux sociaux. Enfin, voilà.
Génial.
Et en fait, j'ai des thématiques comme ça que j'ai au début. Voilà. Là, par exemple, on est au début du troisième. Je sais tout ça. Par contre, je sais pas du tout où ça va me mener. Mais il y aura une forme aussi de suspense un peu psychologique comme La Maison Bleue, parce que ça, j'ai aimé l'écrire. Ça,
ouais.
Je trouve que c'est génial, en fait, à écrire.
En tout cas, moi, le troisième aussi, il me botte bien, hein, parce que c'est hyper actuel encore.
Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, sujet de société, quoi.
Ouais.
Ouais. Ben, je pense que moi, je me nourris beaucoup de ce qui se passe autour de moi. J'observe beaucoup et j'ai une plume un peu engagée quand même. Enfin, en tout cas, je me dirige, mais je crois que je l'ai toujours été parce que Racinelle aussi est engagée finalement. Et je pense que je peux que écrire sur des thèmes comme ça qui résonnent et qui m'animent, quoi. J'ai besoin que des personnages vivent les choses et que ça, voilà, que ça permette de réfléchir aussi et de se poser des questions. Voilà, comme La Maison Bleue, je pense, permet aussi d'ouvrir des questions. Et d'avoir un autre point de vue sur des sujets, parfois on voit qu'un plan, quoi. Et je pense que les livres nous ouvrent, les livres nous transforment. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je perçois l'objet livre. Donc.
Bon, mais super. En tout cas, cette année, ça va être une belle année pour toi, du coup, si j'ai bien compris.
Oui.
La semaine prochaine, Racinelle va ressortir un poche dans ses nouveaux habits de lumière et puis retravailler du coup une autre histoire pour ceux qui l'ont déjà lu, qui va être différente un petit peu. Et mois de mai, donc on te retrouve, avec La Maison Bleue qui revient donc dans le devant de la scène, parce que du coup on va le voir à nouveau. Bah, c'est nickel. C'est une année riche qui t'attend, c'est super.
Bah oui, j'espère que cet été, ce printemps, beaucoup de lecteurs vont lire Racinelle ou La Maison Bleue et s'est emporté par les personnages.
Ah oui, en tout cas, moi, je vous conseille pour l'instant, je peux vous conseiller que La Maison Bleue parce que je n'ai pas encore lu Racinelle. Mais bon, effectivement, je connais la plume de Julie, donc je vous conseille les deux, en vrai. voilà. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter une année de réussite, un 2024 de réussite?
Oui, de plus en plus de lecteurs et que La Maison Bleue circule au maximum, que Racinelle nourrisse, apporte de la joie, apporte voilà, c'est aussi pour ça que j'écris, pour partager, pour voilà, j'espère que ça créera de la joie et que ça apportera quelque chose à ceux qui lisent, voilà.
Ok, bon, mais merci beaucoup en tout cas. Merci Julie, merci à tous nos auditeurs, merci Cécile. Julie, je te laisse le mot de la fin pour terminer.
Merci les filles et c'était Julie pour le podcast Chapitre 2.
Chapitre 2.